Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous sommes à Angoulême, au 44e Festival International de la BD, avec le public d'Angoulême, ici à l'Espace Franquin. Bonjour à tous. C'est un plateau incroyable que nous vous proposons aujourd'hui. Que vous soyez amateur de BD ou pas, nous allons vous faire vivre cet événement de façon unique. Il sera question de la philosophie de Tolstoï avec Martin Véron qui adapte l'une de ses nouvelles. Le grand Régis Loisel, franco-québécois, auteur de la magnifique série Magasin Général, s'approprie Mickey le temps d'un album. Mickey au début des années 30, au moment de la grande crise économique américaine. Un nouveau Mickey à l'époque de Trump, croqué par Loisel. C'est l'événement de ce festival de la BD d'Angoulême. Valérian célèbre ses 50 ans. Un film de Luc Besson sortira cet été. Christin et Mézières seront avec nous pour décrypter la légende. La présidente du grand jury d'Angoulême, c'est la britannique francophone Posy Simmons. L'auteur de Tamara Drew et de Gemma Bovary est avec nous également. Un écrivain va nous accompagner lui aussi. Le prix Goncourt 2015, Mathias Sénard, est avec nous, attentif et bienveillant. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Pas trop mal.
Très bien, on est ravis de vous avoir.
Je suis ravi d'être ici.
Vous êtes le grand témoin de cette émission aujourd'hui.
La librairie francophone. Émission spéciale, Emmanuel Queyrade.
Et c'est notre grand retour au Festival d'Angoulême après plusieurs années d'absence. On est très très heureux de vous retrouver, le public venu nombreux ici à l'Espace Franquin qui a décidé de mettre l'ambiance. Formidable public, merci à vous. Quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Déborah Damblon est en Belgique, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Billy Robinson, élu libraire au Québec, à Montréal, dans la librairie de Verdun. Et Dominique Bressoux représente la Suisse depuis Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour à vous trois.
Bonjour Emmanuel.
Ils sont là, en pleine forme aussi. Et en plateau, ici à Angoulême, nous accueillons un libraire spécialisé en bande dessinée. Bonjour Samuel Chauveau.
Bonjour.
Vous dirigez la librairie Bulle. C'est dans la ville du Mans, pas très loin d'ici. La librairie, paraît-il, qui vend le plus de BD en France ?
Écoutez, je pense que nous sommes un acteur assez important. 34 ans d'existence, j'ai ouvert en 82. D'ailleurs, je viens à Angoulême depuis cette date. D'abord sur 65 mètres carrés. Je me souviens encore des dernières journées, puisque nous avons déménagé voici 3 ans et demi.
Oui.
22 000 ouvrages sur 65 mètres carrés, à peine 8 mètres carrés pour que les clients puissent circuler à l'intérieur de la librairie. En tout cas, 34 ans de vie assez incroyable.
C'est pas mal, et vous allez nous accompagner évidemment ici à Angoulême. Merci Samuel. Bonjour Posy Simmons.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du grand jury donc de ce 44e festival d'Angoulême. Une femme à la tête du grand jury, alors que le festival avait été agité l'an dernier, accusé de sexisme. Cela avait fait grand bruit. Vous aviez entendu parler de ça, vous ?
Oui, j'ai entendu parler de ça. Et je suis ici.
C'est parfait. Voilà. Oui. Voilà, tout est réparé. Vous êtes une dessinatrice de presse, auteure de livres jeunesse, auteure de bandes dessinées aussi. On vous connaît pour Gemma Bovary et Tamara Drew, tous deux adaptés au cinéma par Anne Fontaine et par Stephen Frears. Vous étiez satisfaite de l'adaptation, des adaptations ?
Oui, tous les deux, j'étais contente parce qu'ils étaient très fidèles à mes dessins et surtout les personnages et les acteurs rassemblent beaucoup mes personnages.
Oui, on parlera de l'adaptation de Valérian au cinéma, hein. C'est par Luc Besson, ça sortira cet été. On en parlera avec Christin et Mézières qui se mettront juste à côté de vous. Là. Ils sont en pleine conférence, ils arrivent dans quelques minutes. Alors vous-même, vous avez adapté très librement des classiques de la littérature. Posy. Tamara Drew, c'était Thomas Hardy. Gemma Bovary, c'est évidemment Madame Bovary de Flaubert. Vous êtes passionnée de littérature, c'est ça qui vous a amené à la BD ?
Oui.
C'est drôle d'ailleurs de passer par la littérature pour arriver à la BD.
Oui, c'était un peu par accident. C'est parce que pour le livre de Thomas Hardy, j'ai travaillé pour le supplément littéraire pour The Guardian.
The Guardian.
Et donc ils m'ont demandé d'avoir quelque chose de littéraire, peut-être enterré dedans. Et donc j'ai choisi ce livre de Thomas Hardy, ouais. Avec Gemma Bovary. C'est que j'ai vu une femme en Italie qui rassemble beaucoup à Madame Bovary.
Ah oui, c'est vrai ?
Oui.
Donc ça vient de double influence alors, pas seulement Flaubert.
Oui.
Vous dites, j'ai de la sympathie pour les écrivains. Écrire peut être une occupation très solitaire, soumise à la menace de l'échec. J'ai vu des auteurs dans des festivals, et là tout le monde vous regarde, en train de se comparer la queue de leurs fans.
C'est vrai.
Elle est comment votre queue à vous ?
C'était pas mal.
De fans, hein, tout le monde.
C'était pas mal. Ouais.
Vous avez une anecdote personnelle, une histoire à nous raconter liée justement à un festival ou à une signature ?
Oui, j'étais à un festival en Angleterre et j'étais en train de faire des dédicaces et il y a une femme qui m'approchait, mais son dentier était détaché. Donc, quand elle prononçait les S, elle siffle. Et moi, je m'appelle Percy Simmons, donc c'était Percy Simmons. Oh, I'm sure. Il y avait des tout le temps. Et moi, je voudrais éclater de rire, mais c'était impossible. J'étais très polie, mais j'ai pas entendu un mot.
Merci pour cette histoire. Vous pouvez l'applaudir. Percy Simmons. Mathias Sénard donc est également avec nous. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, Mathias. La dernière fois que l'on vous a entendu ici, c'était en Algérie pour une émission spéciale au Salon du Livre d'Alger, pile au moment du prix Goncourt pour Boussole. C'était parfait en termes de timing. Vous êtes membre du grand jury, avec Posy d'ailleurs, hein, ici à Angoulême.
Tout à fait.
Vous avez signé un roman graphique chez Actes Sud BD en 2013. Tout sera oublié avec Pierre Marquès. Vous êtes un grand amateur de BD, Mathias ?
Oui, tout à fait. J'en lis depuis toujours, que j'aime beaucoup. Moi, pour moi, je trouve pas ça séparé de la littérature. Vous savez, Hugo Pratt disait qu'il faisait de la littérature dessinée. Pour moi, c'est deux mondes qui se rejoignent, qui communiquent. Ouais.
Et vous avez une chronique dans le journal Le Monde, je crois, hein, sur la BD.
Effectivement, voilà.
Oui. Carrément.
J'ai la chance d'écrire une fois par mois sur un album. Oui.
Donc vous connaissez très bien ce milieu de la bande dessinée.
Pas très bien.
Tous les auteurs qui sont là, pour la première fois d'ailleurs, faut le souligner, hein, c'est d'avoir Régis Loisel, Martin Véron, Mézières et Christin, avec Percy Simmons, tout le monde tous ensemble, c'est très rare.
Effectivement, j'ai la chance de les avoir lus tous. Donc,
bon, parfait. Merci. Bien. Mathias Sénard et Percy Simmons sont dans la librairie francophone cette semaine. Régis Loisel, bonjour.
Bonjour.
Rapprochez-vous du micro, je vous en prie.
Bonjour, magasin. Alors, on recommence. Bonjour.
Magasin général, La quête de l'oiseau du temps, Peter Pan librement adapté. Tout ça, c'est vous. Et c'est un homme très heureux que nous accueillons sur le grand plateau de Radio France, à l'espace Franquin, ici même, parce que Mickey Mouse, qui vient de paraître chez Glénat, votre épisode, Café Zombo, c'est un rêve de gosse, Régis.
Ah, complètement, oui. Moi, j'étais même prêt. Glénat ne le sait pas, mon éditeur ne le sait pas. Mais j'étais prêt presque à le faire gratuitement.
Vous pouvez reverser vos droits encore.
Oui, évidemment. Mais j'ai pas de droits pour l'instant. Hein.
Ça va venir.
J'ai une avance, mais pas de droits.
Ah, vous avez une avance. Voilà. Vous la remboursez.
Bon, je me sens un petit peu. Vous me tordez le bras là.
Non, je plaisante. Mais pourquoi ce rêve à ce point-là?
Vous savez, comme tous les gamins, chaque gamin a ses rêves. Ça peut déterminer la vie d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. Moi, c'était Mickey, la bande dessinée, et notamment d'ailleurs les vieux dessins animés de Mickey en noir et blanc.
Ouais. Vous avez d'ailleurs déjà travaillé pour Disney en parlant de dessins animés. Atlantis et Mulan.
Oui, enfin, j'ai travaillé, j'ai collaboré. Fait du développement, c'est ça, du développement pour Atlantis et puis et Mulan.
Vous avez choisi de dessiner un Mickey très roots, comme on dit, très cartoon. C'est ce qu'on dit, hein, dans le milieu de la BD. On est en 1930, au moment de la grande crise économique américaine. Mickey et Horace cherchent du travail, mais ils n'en trouvent pas parce qu'ils sont discriminés en partie.
Voilà, donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin c'est une histoire abracadabrante, évidemment. C'est du Mickey, il ne faut pas l'oublier. Et donc il y a un méchant promoteur banquier qui s'appelle Rockefeller, donc c'est déjà bien...
C'est orienté.
Sa couleur, quand même.
Ouais.
Qui est entouré de malfrats, Patibulaire, Chicano. Enfin, c'est des vieux personnages qu'on retrouvait dans les débuts de la bande dessinée en noir et blanc, dessinée par Fred Gottfredson. Et donc, il y a une histoire de café qui rend un petit peu les habitants complètement zombies. Donc, je parle pas de drogue, là. Hein, je parle vraiment, ça les rend un peu zombies. Et ils vont au travail.
Ils sont asservis, c'est surtout
ça. Ils sont complètement asservis, quoi.
On va écouter la BO de Mickey, Régis Loisel. Petit exercice inédit dans cette émission. On vous a demandé quelle est la musique qui pourrait illustrer cet univers. La bande originale de votre Mickey, finalement, comme dans un film. Et vous avez choisi Graham Allwright avec le Trimardeur. On écoute un extrait et vous nous expliquez juste après.
Les trains de marchandises m'ont emmené loin des grandes villes. J'ai bossé sur les voies de garage comme un imbécile. J'ai roulé de nuit, j'ai roulé de jour, j'ai roulé à en devenir sourd. J'ai roulé loin des villes, vous le savez. J'ai travaillé dans les mines de charbon, au fond de taille, de poussière remplit mes poumons et mes entrailles. Mon marteau pick-up était dur, j'ai fait 100 km, ça j'en suis sûr. J'ai travaillé dans les mines, vous le savez.
Graham Allwright, le Trimardeur. C'est vrai qu'on est dans cette ambiance. Hein,
bah exactement.
Très country, finalement.
Oui, mais bah country, et puis c'est la Grande Dépression. C'est les ouais. gars qui allaient chercher du boulot à travers le pays, qui n'avaient pas d'argent pour prendre le train, donc ils montaient comme ça à la sauvette. Et voilà, donc c'était ça que j'avais envie ouais.
De transmettre.
De transmettre, ouais. quoi.
Alors, Mickey, Horace, Minnie et Clarabelle partent en vacances voir Donald. Et pendant ce temps, il y a un riche homme d'affaires qui met la main sur toutes les maisons de leur quartier pour construire un golf de luxe. Discrimination, Régis Loisel, pouvoir de l'argent, autorité. C'est vraiment l'Amérique des années 30 ou c'est l'Amérique de Trump ?
Expropriation aussi,
expropriation.
Hein, exploitation effectivement des puissants sur les faibles. Mais je pense que ça, c'est l'Amérique de Trump. Enfin, il commence son histoire, lui. On verra plus tard. Mais c'est vrai que tout le monde, enfin depuis tout le temps, on a vécu ce genre de choses. Hein. On a toujours exproprié les gens, on les a toujours exploités. C'est pas Trump, hein, on l'a fait avant et on le fait ici, on le fait ailleurs. C'est un petit peu un reflet de notre société, quoi.
En tout cas, il y a du vernis autour de Mickey. Vous en êtes très conscient. Et c'est très habile, Régis Loisel, parce que sous ces aspects comme ça, un peu lisses, parce que Mickey, c'est un peu lisse, disons les choses, vous arrivez à faire passer des messages.
Oui, enfin bon, c'était pas réellement mon but, mais quitte à faire une histoire originale, je me suis dit, d'abord, moi, je voulais retrouver le Mickey de Gottfredson, c'était le Mickey, parce que Mickey est né en 28, donc je voulais vraiment reprendre les thèmes de cette époque. Il se trouve que c'était la grande Dépression aux États-Unis. Donc évidemment, il fallait que je raconte un petit peu ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un truc en parallèle avec notre monde actuellement. Et ça n'a pas trop changé, hein, vous savez.
Oui, c'est pas mal réussi d'ailleurs dans la BD. Mickey, c'est la valeur étalon du puritanisme américain.
Oui, mais ça l'a été plus tard. Hein. Ça l'a été, effectivement, dans les années 30, c'était pas ça. Parce que si vous voyez Mickey dans les années 30, il est un peu frondeur, bagarreur. Ouais, ouais. Après, ça s'adoucit.
Mathias Sénard, vous êtes d'accord avec ça ? Comment vous le percevez, Mickey ?
Comment il est petit avec des grandes oreilles. Mais moi, j'ai pas du tout... C'est pas que j'aime pas les États-Unis, mais c'est vrai que... Cette période exacte à laquelle naît Mickey, tout ça, je connais très mal.
Posy Simmons, Mickey, c'est un modèle pour les États-Unis, pour l'Angleterre d'aujourd'hui, entre Trump et le Brexit. C'est le citoyen sage.
Oh, il ne faut pas parler de Brexit. je suis pour rester.
Oui, d'accord, mais bon, là, c'est fait. Hein. Je suis désolé, Posy, mais. Vous le voyez comment, Mickey ?
Mickey, c'est un citoyen. Donc, il est un souris.
Oui.
Moi, je préfère Goofy.
Vous préférez Goofy, ouais.
Oui.
Oui, je crois que Régis aime bien Goofy aussi. Hein.
Oui, mais c'est pas... C'est
Dingo.
Pas celui, non, c'est pas celui que je préfère.
D'accord.
Non,
bon, très bien. On va donner la parole aux libraires qui vont trancher. Allez, ils ont lu votre livre, Régis Loisel. Belgique ou Canada, on commence par qui ?
Ah ben, commençons par le Canada, quand même.
Ah ben oui, le Canada, votre seconde patrie.
Ben oui.
Billy Robinson, au Canada, au Québec.
Alors bonjour, merci Régis Loisel. D'abord, quel bonheur de lire des nouvelles aventures de Mickey. Et pertinemment là, proposé par vous. Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation du livre, d'ailleurs, en format italien, qui permet là, de bien se centrer sur les cases. Les nouvelles aventures de la célèbre souris là, se révèlent brillantes, c'est drôle. Ça m'a beaucoup rappelé mes premières lectures de BD de jeunesse. Alors, beaucoup de nostalgie. Pour petits et grands, les nostalgiques comme les premiers lecteurs de Mickey, là, bravo, merci.
Très bien.
Merci beaucoup.
Déborah Damblon en Belgique, êtes-vous d'accord?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai vraiment tout aimé dans votre BD. Vraiment, absolument tout. J'ai aimé retrouver Mickey, parce que moi, je l'aime, Mickey et sa bande. C'était vraiment un plaisir de secouer tous ces vieux souvenirs. Et puis, j'ai adoré ce côté rétro, parce que je trouve qu'il met vraiment très, très fort en évidence l'actualité terrible du sujet. Et d'ailleurs, j'ai vraiment dû le lire deux fois d'affilée pour être sûre d'apprécier toutes les subtilités. Et même le format à l'italienne, je l'ai aimé. Parce que vraiment, c'était le fond et la forme. Alors, bravo, monsieur Loisel.
Mais merci beaucoup. Je suis confus. Hein,
Alors, on va vous applaudir. Merci. Regardez, le public est avec vous aussi. Vous êtes très apprécié, Régis, vous le savez. Il faudra donner votre bande dessinée à Mathias Sénard pour qu'il revoie sa position sur Mickey.
Exactement. Bah,
grâce à vous, peut-être que nous allons avoir une révélation dans le monde littéraire.
Je veux un rapport demain matin sur mon bureau.
Vous dédiez ce livre à beaucoup de dessinateurs en ouverture, hein, dès le début.
Ah, évidemment. Mais de toute façon, on se construit, chaque dessinateur, chaque écrivain se construit sur les autres. Évidemment, on fait partie d'une grande chaîne et on n'est qu'un maillon, on s'accroche dessus. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la préface. Mais moi, j'ai une pléthore de dessinateurs, pas forcément américains. Ça va de Franquin à Uderzo, et qui eux-mêmes étaient inspirés à l'époque de Disney. On fait tous partie de la même famille, quoi.
Alors Franquin, justement, puisqu'on est dans l'espace Franquin, là, ici à Angoulême, qu'est-ce que vous diriez de lui, vous ?
Oh ben, ça a été, c'est un géant de la bande dessinée franco-belge, au même titre que Uderzo, et puis d'autres, Lucky Luke, enfin Maurice. C'est formidable ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres choses qui se font actuellement qui sont tout aussi formidables, mais il est vrai que nos maîtres, à nous, c'est ces gens-là, quoi.
Alors on célèbre, vous le savez, hein, cette année, les 40 ans des idées noires. Et on commémore aussi en janvier 2017, hein, en ce moment même, puisqu'il est mort début janvier, il y a 20 ans. C'est le 20e anniversaire de la mort de Franquin.
Ben, je ne le savais pas. Comme je suis arrivé hier, je ne le savais pas.
Quel rapport avec vous êtes arrivé hier ?
Hein ? Ben non, ben non. C'est parce que vous m'annoncez des nouvelles que je ne connais pas. Donc,
C'était il y a 20 ans, Régis.
Ah oui, mais il y a 20 ans. Mais moi, j'ai perdu la mémoire entre-temps.
Régis Loisel, mesdames et messieurs, merci. Ici à Angoulême. Vous restez avec nous, bien sûr, Régis. Votre album Mickey Mouse, Café Zambo est paru chez Glénat. Nous sommes donc au Festival International de la BD avec un plateau d'exception. Posy Simmons, Mathias Sénard, Régis Loisel, Christin et Mézières qui sont en train d'arriver. Ils sortent d'une conférence à quelques mètres d'ici. Je crois qu'ils viennent tout juste d'arriver d'ailleurs. Et puis Martin Véron qui adapte Tolstoï. C'est une histoire absolument géniale qu'on vous raconte dans un instant. On vous parle de cette fable philosophique juste après le groupe Vaudougame, et c'est dans la librairie francophone, ici à Angoulême.
Amen.
Le combo franco-togolais Vodou Game avec ce titre Elle décide sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et Pierre Christin avec Jean-Claude Mézières viennent d'arriver sur le plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. On vous retrouvera dans la troisième partie. Tout s'est bien passé, la conférence, tout ça ?
Très bien.
Vous êtes pile à l'heure, vous êtes parfait. Merci à vous d'être là. On va vous parler maintenant de la chronique des libraires avec leur coup de gueule, leur coup de cœur. Vous le savez, c'est le principe chaque semaine. Et on commence tout de suite avec la Suisse et un coup de gueule, justement. Dominique Bressou.
Oui, un coup de gueule contre le dernier roman « Chaleur » aux éditions Finitude du Suisse Joseph Incardona. Il y est question d'un concours entre un ex-militaire russe et un étalon star du porno pour rester le plus longtemps possible dans un sauna en Finlande.
Bon,
alors bien. L'idée est bonne,
mais
ce roman m'a déçu par sa noirceur totale sans contraste et son côté porno-gore qui n'amène rien à l'histoire. Finalement, le mieux c'est de lire ou de relire tous les autres excellent roman de Incardona.
Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, il est porté hein, en Suisse en ce moment, cet auteur-là, avec ce livre. Chaleur, ça ne vous a pas plu du tout.
Il n'y a que moi qui ne l'aime pas.
Oui, c'est ça. Et c'est aux éditions Finitude. Merci pour votre honnêteté, cher Dominique. En France, ici à Angoulême, il y a Samuel Chauveau. Vous avez un gros coup de cœur, Samuel.
Écoutez, ça n'est pas très original puisque c'est l'album de Martin. Cet album que l'on a découvert en début d'année 2016.
De Martin qui ?
De Martin Véron.
Ah oui, Martin Véron.
Oui, pardon, oui, tout à fait.
Ah oui, donc, oui.
Et écoutez, lorsque cet album est sorti, moi j'avais hâte de voir, puisque je crois que Martin n'avait pas créé depuis un certain temps, c'était un petit peu son retour, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qu'il était capable de nous ressortir. Je ne connaissais pas cette nouvelle de Tolstoï, et là franchement, je dois dire que j'étais agréablement, mais plus que ça, surpris.
Eh bien, figurez-vous que Martin Véron est là. C'est la magie de la radio. C'est incroyable, incroyable.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Queyrade.
Et ce n'est pas calculé, c'est vraiment son coup de cœur. Bonjour Martin Véron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez adapté une nouvelle de Tolstoï en bande dessinée. Votre album fait partie de la sélection officielle d'Angoulême. La philosophie de ce conte russe écrit par l'auteur de Guerre et Paix, c'est la folie des grandeurs qui mène toujours à la perte.
Oui. Non, c'est surtout dans l'insatisfaction. Parce que la folie des grandeurs, c'est l'histoire de petit paysan à côté de Trump, c'est vraiment petit bras.
Oui.
Mais moi, je cherchais à faire quelque chose sur le productivisme, sur ce toujours plus, et par mes propres armes, je ne trouvais rien. Jusqu'à ce que je me souvienne, dans un moment d'abattement total, d'une nouvelle que j'avais lue quand j'étais petit, un conte russe, j'avais lu à 12 ans. Et ça m'est revenu 50 ans après sans que je le sollicite. Ouais. C'était un don de Dieu. J'ai reçu ça comme une révélation.
Ah, vous devenez mystique en fait.
Ouais. Ah, mais je suis devenu mystique à ce moment-là parce que après, je me suis souvenu de la dernière phrase qui donne le titre, ce qu'il faut de terre à l'homme.
Ouais.
Je l'ai tapé sur moteur de recherche, j'ai retrouvé la nouvelle. Je me suis rendu compte qu'elle était Tolstoï, parce que je n'avais pas cru bon de retenir. Et j'ai relu cette nouvelle. J'ai dit, mais il y a tout ce que je voulais dire. Tout ce que
c'est
je...
ça.
Avec l'angle intelligent que je ne trouvais pas.
Quelque part en Sibérie, un paysan vit modestement avec sa famille sur une parcelle de terre. À côté, il y a un domaine qui appartient à une riche famille. Ça, c'est votre histoire, le début de votre histoire, Martin Véron. Et tout va commencer par une extension possible de ces terres. L'ambition se démesure assez vite. Et cette nouvelle de Tolstoï, on va la raconter parce que voilà, c'est une nouvelle qui fait 20 pages. Vous avez eu l'intelligence, Martin, de faire une extension comme ça, avec une première partie très élaborée, comme une histoire dans l'histoire. La nouvelle de Tolstoï, elle raconte finalement qu'on est toujours trop gourmand. On dit à un homme, voilà, tu peux choisir tes terres, la seule condition, c'est qu'il faut que tu puisses les parcourir avant le coucher du soleil. En une journée, tu dois parcourir ta terre.
Mmh.
Donc tout est possible à partir de là.
Ben c'est dans une histoire, si on a déjà la chute, c'est pas mal. Après, on peut broder en avant.
Mais bien sûr, oui. Mais c'est pas la chute le plus important, c'est la démarche pour arriver à la chute.
Oui, mais justement, on peut finasser et l'amener de façon un peu...
C'est ça, c'est ce que vous avez
un
fait.
Un peu fauderge, oui.
Un peu fauderge. Ouais. Vous n'êtes pas fauderge du tout.
Si,
ah bon. Bon, allez, on va écouter le son du monde de la semaine, Martin. Le principe, c'est une musique du monde habillée d'une voix. Cette voix va lire, justement, un extrait de la nouvelle de Tolstoï. Et c'est Mathias Sénard qui a accepté cet exercice sur la musique d'Igor Stravinsky avec un extrait de Petrouchka.
Il regarde le soleil. Le soleil est rouge, agrandi. Il s'approche de la Terre. Déjà, son bord est caché. Comme Pachom arrivait tout courant jusqu'à la colline, le soleil s'était couché. Pachom a fait « Ah !» Il pense que tout est perdu. Mais il se rappelle que si lui, d'en bas, ne voit plus le soleil, l'astre n'est pas encore couché pour ceux qui sont au sommet de la colline. Il monte rapidement. Il voit le bonnet. Le voilà. Il fait un faux pas, Pachom. Il tombe et de sa main, il atteint le bonnet. « Ah, bravo, mon gaillard !» s'écrie le Starshina. « Tu as gagné beaucoup de terre !» Le domestique de Pachom accourt. Il veut soulever son maître. Mais il voit que le sang coule de sa bouche. Il est mort. Et le Starshina se met à rire. Puis le Starshina jette une pioche au domestique. « Enterre-le » dit-il. Et le domestique creuse une fosse, lui donnant juste la mesure de terre qu'il faut à l'homme.
Mathias Sénard, Lili Tolstoï, ici à Angoulême, au Festival international de la BD. Félicitations Mathias, très belle lecture. Vous la connaissiez, merci, cette nouvelle ?
Je l'ai découverte en lisant l'album de Martin Véron.
Ah, d'accord.
Et du coup, après, évidemment, par curiosité, j'ai voulu voir un peu le texte qui en était à l'origine, et je me suis rendu compte qu'effectivement, toute la première partie ne s'y trouvait pas.
Oui.
Et j'ai été bluffé parce que, justement, tout ce départ qui m'a absolument captivé, qui me paraissait tellement russe, en fait, ne l'était pas.
J'ai pompé sur d'autres nouvelles de Tolstoï pour enrichir un peu mon propos. Voilà. Mais ça reste tolstoïen. Si, j'ai pompé un peu de Tchekhov aussi dans un passage sur la steppe. C'est juste une case. Je ne savais pas que Tchekhov, qui pour moi était l'écrivain de l'intime, était capable d'écrire sur la steppe où, comme chacun sait, il ne se passe absolument rien.
Ouais.
Mais Tchekhov, il sait. Ouais. Et moi aussi.
Et moi aussi, du coup. Pensez-vous maintenant que vous avez bien réfléchi sur le sujet, Martin Véron, en faisant cette bande dessinée, surtout en intégrant la philosophie de Tolstoï, que posséder des terres, posséder des maisons, c'est du temps en moins pour sa vie personnelle?
C'est-à-dire pas être capable de profiter d'une maison en pensant à une autre qui est plus grande et plus belle, c'est effectivement commencer à merder sa vie. Ça, j'en suis sûr. Mais elle expliquait ça à Trump.
C'est un peu ça, c'est vrai, la morale de l'histoire. Ce fermier, qui est d'ailleurs mis en garde par son épouse, à vouloir trop posséder, il va devoir travailler plus, entretenir plus.
Généralement, dans la vie, c'est les femmes qui poussent, qui reprochent à leur mari de ne pas être assez ambitieux.
Elle lui dira, sa femme, « On dirait qu'avoir de l'argent pose plus de problèmes que ça n'en résout ».
Ah mais ça, j'en suis absolument certain, j'ai pu l'observer chez mes amis riches.
Vous avez beaucoup d'amis riches?
Oui. Oui. C'est comme ça que j'ai décidé de ne pas devenir riche, en travaillant peu.
Martin Véron, incroyable. On va donner la parole à deux libraires qui ont lu votre livre, comme Mathias Sénard, qui n'est pas libraire mais qui a lu votre livre. C'est surréaliste aujourd'hui. La Belgique ou la Suisse, tiens, vous préférez quoi, vous?
La Belgique, on commence par le haut.
La Belgique, on commence par le haut. Déborah Damblon, c'est à vous.
Alors, je vous rassure, Monsieur Véron, chez vous aussi, j'ai tout aimé du début à la fin.
Ah bah, dites donc,
aujourd'hui. Alors d'abord, oui, carrément. D'ailleurs, j'ai aimé retrouver Tolstoï, hein, bien sûr, parce que c'est pas rien de retrouver Tolstoï. Et parfois, je trouve que dans les bandes dessinées qui sont tirées de textes romanesques, on met un peu de temps à adapter son esprit aux images mentales qu'on s'était faites. Eh bien, pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis trouvée dans mes souvenirs directement. Et puis, ce que j'ai aussi énormément apprécié, eh bien, c'est la modernité, évidemment, de ce conte et son affreuse intemporalité, mais que vous arrivez à cacher sous le dépaysement du voyage que vous nous faites faire dans le temps et dans l'espace.
Dominique Bressoux, en Suisse, quel est votre avis ?
Alors moi, cette BD, elle m'a vraiment captivée. Et en fait, si pour Tolstoï, la cupidité, c'était le diable tentateur responsable de tous les maux, il est absent dans la BD, mais alors pas de regret, parce que vous, Martin Véron, vous montrez bien qu'on n'a même pas besoin de lui pour croire à l'histoire. Et c'est pas les femmes non plus qui poussent à la cupidité, je précise.
Merci Déborah. Posé Simons, Tolstoï, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ce que vous avez entendu là, par exemple, vous auriez aimé l'adapter, ça?
Tout à fait, j'étais captivée par le BD. Et c'est raconté, c'est très fluide. J'ai adoré les couleurs qui fonctionnent par les saisons. Et j'aimais beaucoup les petits dessins sans parole quand ils se battent sur la glace ou le traîneau dans la neige. C'était très bien, c'était très impressionnant.
Voilà, vous faites l'unanimité, hein, Martin Véron. Félicitations. Il y a beaucoup de thèmes dans cette histoire, dans cette bande dessinée aussi. Il est beaucoup question de la valeur du travail. Vous abordez la question du servage. Ces paysans qui sont enfin indépendants, qui sont libérés de cette forme d'esclavage et qui évoquent une autre forme d'esclavage, celle qui les oblige à travailler beaucoup plus pour leur propre compte. Ils se posent la question, est-ce vraiment nécessaire d'avoir ces terres et finalement d'être l'esclave de soi-même ?
Généralement, ils se retrouvaient dans la position des esclaves noirs américains où on leur rendait la liberté, mais c'est tout. C'est-à-dire pas de terre à cultiver, donc ils se retrouvent plus pauvres qu'avant. Avant, au moins, ils étaient nourris. Et là, c'est en lisant de Tolstoï en général, sur les, chaque fois, il a des chapitres sociaux là-dessus. Il parle de la misère absolument totale des villageois qui ont, en dehors des problèmes d'éducation, n'ont pas de terre et sont dans une misère qui leur ronge l'intelligence et les capacités à travailler. Pour s'en sortir, c'est épouvantable.
Le message social de Tolstoï, Mathias Sénard.
Oui, ce qui est assez amusant, c'est aussi, ça c'est un des thèmes qui m'ont beaucoup intéressé, c'est de voir à quel point les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux quand il s'agit de décider quelque chose. Et c'est une des scènes.
La commune, ils essayent de mettre en commun leurs terres.
Finalement, non, ils récupèrent les terres d'abord en commun, en se portant acquéreurs tous ensemble d'une partie de ce domaine. Et finalement, évidemment, c'est même pas la peine de le raconter d'ailleurs, c'est une ellipse. Et on se retrouve deux cases après. Et en fait, non, tout est séparé et chacun est de son côté parce qu'évidemment, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magique de le dire avec une simplicité pareille. Et c'est tout à fait plausible d'ailleurs. Très certainement, nous n'arriverions pas à nous mettre d'accord.
Mais tout le monde a des expériences dans sa vie d'essayer de se mettre d'accord avec d'autres gens sur un projet commun. C'est compliqué.
Oui.
Ce qu'il faut de terre à l'homme, de Martin Véron, que vous pouvez applaudir ici à Angoulême. C'est chez Dargo. Et c'est la sélection officielle du festival. Merci Martin Véron. Il y a Régis Loisel qui vous parle, mais Martin, vous êtes Régis. Mais merci beaucoup.
Merci.
Vous restez avec nous.
Ben volontiers.
Oui. Christin et Mézières, rien que ça.
Bien sûr.
Juste en face de vous. Allez, dans un instant. Du côté des libraires, il y a au Canada Billy Robinson qui reste dans la bande dessinée et qui vous propose un coup de gueule, je crois, Billy.
Eh oui, un coup de gueule. Il n'y a pas que du bon en BD, je suis désolé. Alors, mon coup de gueule, en fait, va pour le Bloody Harry, cette BD. Donc, on ne peut pas prononcer le nom de Alexandre Arlen, c'est Jungle. Alors, l'auteur semble vouloir plaire aux amateurs de la célèbre série, tout en parodiant les idées brillantes de l'auteur J.K. Rowling. Mais selon moi, là, il rate complètement son but. Je pense que les détracteurs du jeune sorcier auront beaucoup plus de plaisir que les admirateurs. C'est grossier, c'est pas drôle du tout. Ça a plein de références sexuelles dépassées. Alors, moi, là, je suis pas du tout certain là, que c'est pertinent. Alors, j'ai pas aimé du tout.
Bon, bah, écoutez, très bien. C'est vrai que dans la BD, il y a aussi de mauvais livres. Donc, pour vous, c'est celui d'Alexandre Arlen, Bloody Harry, si ça vous tente, aux éditions Jungle. Merci, Billy. En Belgique, on rejoint Déborah Damblon d'Angoulême à Bruxelles. On fouine dans le rayon des essais avec vous, Déborah.
Voilà. Et moi, je vais vous proposer un coup de cœur, Emmanuel. Un grand coup de cœur pour ce livre qui s'intitule « La méchanceté ordinaire ». Est-ce que vous savez, Emmanuel, que Lacan pensait que l'homme n'était pas méchant, qu'il était méprisant ?
Ouais, c'est pire.
Eh bien, dans ce livre que j'ai trouvé passionnant, les auteurs, ils vont passer la méchanceté au crible et vraiment, vraiment nous faire réfléchir à ce concept en remettant nos certitudes en question et en nous faisant peut-être sortir de la tête l'idée que le méchant, c'est toujours l'autre. C'est vraiment très intéressant.
C'est toujours l'autre, le méchant, évidemment, c'est jamais nous. C'est logique.
Ben, lisez le livre, Emmanuel.
La méchanceté ordinaire aux éditions La Muette. Attention, événement dans la librairie francophone aujourd'hui depuis Angoulême avec Mathias Sénard, Posy Simmons, Régis Loisel, Martin Véron, Christin et Mézières qui sont sur notre plateau tous ensemble. C'est assez unique. Régis Loisel, je crois que Jean-Claude Mézières a été votre professeur à l'université de Vincennes en région parisienne.
C'est exact. Est-ce qu'on peut dire professeur ou conseiller?
Non. Et est-ce que c'était une université?
Oui, oh non, c'était pas.
Qu'est-ce que c'était?
Non, pas du tout. C'était un rassemblement de jeunes dessinateurs qui venaient se faire démonté la tête par deux individus qui étaient Mézières ou Giraud.
Ah oui.
Et moi j'ai toujours eu affaire à Jean-Claude qui est effectivement a eu un regard sur nos travaux, sur le mien, qui a été déterminant.
Vous avez dézingué la tête à Régis Loisel ou jamais vous,
bah, et en général, lorsque un jeune dessinateur me demande mon avis, et que quand il commence à froncer les sourcils, parce que je lui dis que là c'est mal foutu et tout ça, je lui dis écoute, deux choses, ou tu me demandes mon avis, ou tu vas voir ta grand-mère qui va te dire c'est très bien mon chéri, hein, voilà.
Ça commence bien, ouais. Quand on dit ça, c'est compliqué après, hein, de rebondir. C'est dur.
Donc, non, je crois que je lui montrais qu'on pouvait interpréter différemment la narration graphique et non pas le dessin, parce que je ne suis pas prof de dessin.
On parle de Valérian, en tout cas avec vous et avec Pierre Christin. Valérian qui sera adapté au cinéma, sorti cet été. Angoulême célèbre aussi les 50 ans de Valérian. Ce sera juste après le tube francophone de la semaine avec le Dancing with Madonna d'Arthur H. dans la librairie francophone depuis Angoulême, BD 2017.
La vie, c'est le chaos. La vie, c'est le stress. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I'm dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing. I wanna dance with Madonna. C'est le Schwartz. La vie, c'est le spleen. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, je me lève, je chante, je danse. I am dancing.
Arthur H, Dancing with Madonna sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
En public avec le public d'Angoulême, ici aujourd'hui au Festival International de la BD. Avec Pierre Christin et Jean-Claude Mézières qui sont dans la librairie francophone pour les 50 ans de Valérian et son adaptation au cinéma par Luc Besson qui sortira fin juillet. Il y a une exposition ici à la médiathèque L'Alpha qui raconte la genèse et l'histoire de Valérian. On a pu voir là-bas en avant-première des costumes et des éléments du décor du film. On est allé voir l'expo juste avant l'émission. Vous êtes satisfait du résultat tous les deux, Pierre ?
Oh, ben vous savez, quand on travaille en toute petite dimension avec 0 francs, 0 centimes, et des petits costumes dessinés sur quelques centimètres carrés, que tout d'un coup on voit des géants de 3 mètres de haut, des tissus, des étoffes, c'est un autre monde, et pour deux créateurs qui étaient des petits artisans, voilà,
ouais, au départ,
bricoleurs dans leur coin, voir passer une petite BD à ce stade véritablement industriel et magique, ouais, c'est assez émouvant.
Jean-Claude Mézières.
Ouais. Oui, c'est même, en se disant, je regarde des trucs, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas dessiné ça déjà comme ça?
Et je peux vous dire que ce film va avoir une couleur, une esthétique très BD, sans doute encore plus que le Cinquième élément, film sur lequel vous avez travaillé, Jean-Claude, d'ailleurs.
Oui, oui, il y a, dans ma jeunesse, il y a 25 ans.
Déjà 25 ans, le Cinquième élément, c'est horrible. Ouais. Les taxis volants, par exemple, ils viennent de Valérian.
Oui.
Oui, ils sont sortis d'une histoire qu'on était en train de faire. Moi, je les avais appelés des limousingues, ce que je trouvais pas trop mal aussi.
Des, pardon ?
Des limousingues.
Ah, des limousingues, oui. Hein,
pour aller de planète en planète, avec un petit peu de chic là-dedans. Ça prouve qu'on peut faire passer des éléments d'une bande dessinée dans un autre domaine, sauf que là encore, il faut arriver à les construire, ouais, à donner le sentiment qu'ils volent. C'est-à-dire que ce qui était très simple, un petit dessin grand comme ça, devient un peu une aventure industrielle pour arriver à ce qu'on voit un taxi ou une limousine qui fonctionne.
Une limousine. Valérian a 50 ans. En 1967, 10 ans avant une certaine guerre des étoiles, et lorsque vous voyez le premier épisode de Star Wars, vous êtes sous le choc, Jean-Claude Mézières.
Bah, oui. D'abord, il faut rappeler que Star Wars, dans le milieu de la bande dessinée et de la science-fiction française, n'a pas été si bien accueilli que ça.
Ah.
Parce que c'était comme ci, comme ça, c'était pas le grand film de science-fiction un peu prophétique, un peu psychédélique qu'on attendait, c'est assez curieux. Le grand public, lui, a adoré, mais la corporation n'a pas été... Moi, je le dis tout de suite, je suis tombé absolument sous le charme.
Sous le charme et sous le choc, parce qu'il y a des éléments de Valérian.
Bien sûr, oui.
C'est raconté dans l'intégrale, parce que l'intégrale ressort là chez Dargo, il y a une intégrale augmentée où vous racontez plein de choses. Et vous dites, mais en fait, tout correspond.
Non, pas tout.
Enfin, tout correspond.
Pas tout.
Certains costumes, certains vaisseaux. Il y a beaucoup d'accointances, en tout cas.
Il y a des accointances, des rencontres ou des emprunts, je ne sais pas. Et moi, je mets toujours un point d'interrogation après cette phrase, parce que, tiens, bizarre, des choses que j'avais dessinées, et 10 ans plus tard, on retrouve. Bon, mais comme je n'ai jamais eu contact avec George Lucas, eh ben, je dis... vous jugez, vous regardez, vous comparez, et chacun se fait son opinion.
Vous n'avez pas du tout essayé de voir avec Druyer, qui a eu des contacts avec Lucas, avec Philippe Druyer.
Druyer, il ne parle pas anglais, que je sache.
Oui, mais bon, il a communiqué quand même un peu avec lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte.
Mais je n'ai pas besoin de Druyer pour aller contacter Georges Lucas. Oui. Je lui ai écrit deux fois, il ne m'a jamais répondu.
Ah d'accord, oui, voilà.
Ah, oui, bah, bien sûr.
C'est un aveu, quelque part. Peut-être.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Oui, oui. Mais moi, j'entendais tout à l'heure l'idée de chaîne. On fait partie, quand on écrit, quand on essaye d'inventer, de choses qui se sont faites avant, de choses qui se sont faites après. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la science-fiction. Mm-hmm. Puisque là où, quand vous faites un polar, par exemple, c'est assez simple. Le détective, il va prendre une voiture ou il va aller boire un coup au bistrot. Vous faites de la science-fiction, ah, il faut qu'il se déplace. Ben, par exemple, il va y avoir besoin d'un astronef. Les astronefs n'existent pas. Donc, tout le monde regarde un peu les astronefs du copain, pas pour copier sur lui, mais au contraire, pour essayer de trouver un nouveau type d'astronef qui ressemble pas trop. C'est-à-dire, il y a tout un matériel visuel qui circule à l'intérieur.
On s'inspire les uns des autres, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Dominique Bressot est en Suisse. Elle a lu, évidemment, Valérian. Je crois qu'elle est fan. Dominique.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'était un vrai bonheur de relire les anciens tomes de Valérian et Laureline et de constater qu'à chaque fois, les auteurs ont su se renouveler avec des dessins vibrants d'énergie, d'une imagination foisonnante et qui nous propulsaient totalement vers d'autres mondes. Et les auteurs, en fait, ont su arrêter la série à temps pour éviter toute lassitude, mais c'est presque dommage parce qu'on en redemanderait.
Mais vous pouvez en redemander parce que je crois qu'il y en a un en préparation.
Oui, disons qu'on a bouclé la boucle de la quête de Galaxy City, mais on n'est pas mort, donc on peut continuer à travailler doucement, et c'est surtout que faire des retours en arrière, puisque la spécialité de Valérian, c'est le saut
dans l'espace-temps. Ce sont deux héros, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux héros spatio-temporels qui explorent comme ça la galaxie, les galaxies, qui ont plein d'aventures et qui passent d'une époque à l'autre. Voilà.
Mais en très gros.
En très gros résumé.
En très gros, c'est ça, merci, mais c'est tout à fait. Et simplement, là, on fait des retours sur des passages qu'on a bien aimés, qu'on réexplore, qu'on réinterprète, et donc c'est une liberté surveillée.
Liberté surveillée. Billy Robinson, au Canada, vous êtes surveillé par l'équipe de la librairie francophone. Connaissiez-vous Valérian au Québec?
En fait, un peu, trop peu pour moi, malheureusement. Et j'ai sondé mes amis libraires et clients de la librairie, et tout se passe comme si là, ce succès phénoménal de cette série était encore à venir au Québec. Alors, j'ajouterais finalement là, que Valérian est aussi une source d'inspiration pour plusieurs auteurs et BDistes québécois.
Et pas que québécois, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Valérian. Il y a énormément de créatures. Hein. Du coup, la discrimination est impossible. Hein. Dans l'intégrale, il y a une interview croisée de Luc Besson et de vous, Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Et Besson dit y voir un pied de nez au racisme.
La xénophobie est impossible dès le moment où vous mettez en scène d'innombrables planètes et où vous acceptez notamment, parce que c'est une source d'amusement aussi, la différence physique. C'est-à-dire que chez nous, à la différence de beaucoup de comics américains, le bon extraterrestre, le bon alien, n'est pas un extraterrestre mort. Il est au contraire très vivant. Il a ses raisons, et d'ailleurs dans Valérian, en 40 ans, il n'y a pas de méchant. Tout le monde essaye de s'y prendre comme il peut, toutes les races cohabitent. Alors c'est peut-être un petit peu trop beau de penser ça, mais ce n'est pas non plus un monde de bisounours. Chacun défend ses intérêts, et y compris avec des formes physiques parfois très bizarres.
Alors, il y a l'Atlas de Valérian et Laureline qui est sorti chez Dargo en complément de cette intégrale et qui justement répertorie hein, toutes ces bestioles, toutes ces créatures. C'est une somme incroyable. Vous êtes
Ça fait 50 ans que c'est incroyable.
Et vous êtes très en avance à chaque fois, c'est dingue. Par exemple, quand on parle d'écologie, vous avez anticipé la catastrophe de Tchernobyl. Vous imaginez dans un album, quelques années avant, une catastrophe nucléaire et vous la situez en 86 et c'est ce qui va se passer en Russie.
Y a quelque chose de dangereux à être scénariste de science-fiction.
Pourquoi ?
C'est pratiquement tout ce que j'ai prévu de positif est jamais arrivé et tout ce que j'ai prévu de négatif est arrivé. J'ai eu tellement honte que j'ai été obligé d'aller à Tchernobyl pour faire un reportage parce que je me sentais inconsciemment en partie responsable de cette chose.
Mathias Sénard, vous voyez Valérian comme une approche ethnographique de la science-fiction ?
Je suis un très grand fan de Valérian depuis très longtemps. J'avais une petite histoire à raconter. La seule fois où je suis venu au Festival d'Angoulême, c'était au début des années 80. Et les seuls albums que j'ai achetés, que j'ai fait dédicacer, c'était deux Valérian. Et donc j'ai encore regardé hier dans ma bibliothèque mes albums de Valérian avec un Salut Mathias, un Valérian et une Laureline aussi Salut Mathias. Donc ça fait vraiment partie de mon histoire, de ma formation aussi. Je pense qu'une partie de mon goût pour le voyage, la différence, la découverte vient très certainement de ces lectures-là. Et c'est vrai qu'il y a une grande générosité. Alors, c'est pas du tout le bisounours. Il y a des méchants quand même. Il y a des combats. Mais c'est vrai que
personne ne veut détruire la planète. Personne ne veut tout détruire.
Voilà, c'est aussi une vision assez généreuse de l'univers où finalement la curiosité a toujours le dessus. Et ça, c'est absolument magnifique.
Vous êtes dur avec vos personnages. Hein. Vous aimez beaucoup Laureline, Pierre Christin. Et vous dites que Valérian, c'est un peine à jouir. Vous l'avez dit dans l'intégrale,
oui.
En préface.
Non mais, Laureline, quand vous êtes...
Répondez, Pierre. Comment ça, un peine à jouir?
Mais quand vous êtes scénariste, c'est très curieux parce que je devrais, par exemple, écrire le rôle de Valérian plus facilement, puisque c'est un homme. Mais pas du tout. Les paroles qui me viennent spontanément... Ouais. C'est celle de Laureline, parce que la bande dessinée, c'est vraiment des dialogues tac, tac, tac.
Oui, c'est ça.
Tu dis ça, je réponds ça, tu dis ça, je réponds ça. Et on est emmené par l'esprit même du personnage.
Donc si je peux me permettre, Pierre, c'est vous le peine à jouir. Avec Valérian.
Peut-être.
Oui. Avec tout le respect qu'on vous doit, évidemment. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Et c'est Samuel Chauveau qui est ici à Angoulême, en France, avec nous. C'est à vous de conclure, Samuel.
À conclure, c'est un petit peu comme Mathias. Moi, je me souviens très bien d'avoir découvert Valérian dans Pilote, Matin, quel journal. Et puis, ma première dédicace, elle était effectivement lorsque vous êtes venu au Mans et d'arriver avec mes albums comme un simple fan un peu bêta et naïf. Et aussi, par la suite, Laureline, quand même, parce que c'est une vraie héroïne qui a marqué...
C'est, C'était la première. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup de filles dans la série avant.
Et au Mans, il y a des jeunes filles qui s'appellent, j'en connais une particulièrement, qui s'appelle Laurine, hein, qui est cette contraction, effectivement, qui va fêter ses 40 ans et qui ne me parle que de vous et un jour de pouvoir vous rencontrer. Voilà, ça, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir se dire que des gens, effectivement, eh bien, ont pu même porter un prénom de leur
absolument,
héros préféré.
Les familles de Valérian et les familles de Laurline, j'en ai reçu des faire-part de naissance. On m'a demandé de dessiner les faire-part de naissance. J'en ai fait pas trop parce que je vais pas passer mes temps à faire des temps. Et ça continue avec l'arrivée du film. Je m'attends à des wagons de Laurline et de Valérian.
Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, vous pouvez applaudir. Valérian, l'intégrale chez Dargaud. Vous pouvez y aller, hein, parce que ce sont des légendes de la bande dessinée. Voilà. Incroyable. Magnifique, vraiment. Vous êtes des modèles pour beaucoup, beaucoup de dessinateurs, piliers de la science-fiction. Merci à vous. On était ravis de vous accueillir tous les deux, Pierre et Jean-Claude. Donc l'intégrale, c'est chez Dargaud. Et puis il y a les Habitants du Ciel aussi, toujours chez Dargaud. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur une découverte francophone avec Calypso Valois, fille d'Élie et Jacquenot. Calypso Valois avec un extrait de ce titre Le Jour que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Régis Loisel, merci Martin Véron, Mathias Sénard. C'était un grand plaisir de vous avoir. Cozy Simons, merci beaucoup. Merci au public d'Angoulême, vous êtes magnifiques. À la réalisation Serge Gandon, avec à la technique Rémi Gouriot, avec Fabien Gosset et Jérémy Thuil, à la rédaction Jean-Philippe Véret, avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepude en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. À suivre la semaine prochaine, Pascal Rose, Nicolas Dickner, Carole Laure pour les 150 ans du Canada et la réaction du Suisse Cosé qui vient de recevoir ici le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Le monde de la BD francophone est en mouvement. Merci à vous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.